une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent le réel? Territoire occupé.
Vous écoutez Fréquence 7, vous écoutez Billets d'Afrique. Aujourd'hui, dans Billets d'Afrique, on fait une spéciale Gabon. Et oui, on essaye un peu de suivre l'actualité dans cette chronique qui sera forcément politique. On va parler de colonisation, on va parler de décolonisation, on va parler de corruption et on va bien sûr parler du coup d'État qui a eu lieu fin août. Aujourd'hui, donc, on part au Gabon dans la moiteur tropicale avec pour décor l'odeur de la corruption. Celle de l'essence, le bruit des tronçonneuses au loin. On va parler de protection de l'environnement, et surtout de comment la France voudrait distribuer les bons et les mauvais points à ceux qui gèrent bien leurs forêts. On va en parler parce que c'est d'une des actualités africaines de ce mois de septembre, le coup d'État qui a eu lieu dans le pays par des militaires qui ont défait le pouvoir d'Ali Bongo. Je vous entends déjà, un coup d'État encore, ils ne savent faire que ça en Afrique. Et hey, chers auditeurices, qu'on se le dise, un coup d'État. Quand c'est une dictature, ce n'est pas la garantie que le nouveau pouvoir soit libertaire, mais c'est au moins une source d'espoir. Et si les coups d'État pleuvent ces dernières années sur le continent africain, c'est que les gouvernements ne sont pas franchement des alliés de la population. Quel gouvernement pourrait l'être, me diriez-vous? Mais alors ne faites pas vos anarchistes. Ce que je veux dire, c'est que ces renversements sont un symptôme d'une mauvaise, voire d'une absence d'alternance de pouvoir. En gros, dans certains pays, il y a le jeu des élections pour changer d'équipe dirigeante, comme en France, par exemple. On vote, on espère que ça change. Et quand ça change, on n'est pas forcément ravi. Mais dans d'autres pays, les élections ne font pas de changement. On vote, on n'espère pas que ça change. Pourquoi? Comment? Par quels artifices les pouvoirs se maintiennent-ils? Eh bien, l'État français n'y est pas pour rien. Tiens, par exemple, notre sujet du jour, le Gabon, tout petit pays, très riche en pétrole, dirigé depuis plus de 55 ans par la même famille, la famille Bongo. C'est une ancienne colonie française. Là, il faut que je vous fasse les sous-titres. Le Gabon, décolonisé, mettons des guillemets, en 1960, s'est retrouvé en 1968, 8 ans plus tard donc, avec un seul parti unique, le parti au pouvoir. C'est un pays où la forêt a une grande place. C'est un pays, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas très grand. Et la place de la forêt est géographique, certes, en ressources aussi, donc économiques. Mais c'est aussi l'habitat d'une partie de la population, les pygmées. Là-bas, les Européens ont tout pillé. Le bois, les ressources du sous-sol, le pétrole, mais plus récemment, des terres rares, des minerais permettant de la fabrication de téléphones portables, d'ordinateurs. Bref, le progrès technologique est aussi dépendant de l'extractivisme, et là-bas, les terres sont riches. Les animaux, l'ivoire des éléphants, le caoutchouc. Mais les Européens ont aussi pillé les gens. La traite négrière, la déportation donc d'hommes et de femmes pour qu'ils deviennent esclaves, c'est faite par la Hollande, la France, le Portugal. Là-bas comme ailleurs, qu'on ne vienne pas dire que cette histoire ne nous concerne pas. Parce que comme dirait Kerry James, c'est nous qui avons décidé de lier notre histoire à la leur. Aujourd'hui, le Gabon, c'est une des dernières bases permanentes de militaires français sur le continent africain. Entre accords de défense, exploitation des ressources. On peut dire que notre cher pays, la France, a dépassé le stade de l'amitié avec ce petit pays africain. Et puis c'est une source d'approvisionnement importante pour le groupe Total. Elf, l'entreprise d'État, ça vous dit quelque chose? Le scandale en 1994, tout ça, tout ça. Eh bien c'est au Gabon. À l'époque, le dirigeant c'était Omar Bongo, le père donc. Elf, c'est devenu Total. Omar, le bon ami de la France, a passé l'arme à gauche. C'est son fils, Ali, qui lui a succédé. Normal, quoi, comme dans une royauté. Comment a réagi l'État français? Oh, très bien. Tant que les affaires roulent, vous savez. D'ailleurs, cette passation de pouvoir, on n'avait pas appelé ça vraiment un coup d'État à l'époque, en 2009. Ni une dictature, le régime sous lequel vivent les Gabonaises et Gabonais. Alors, quand fin août 2023, il y a quelques semaines donc, un groupe de militaires déclare mettre un terme à cette dynastie, là c'est un coup d'État, diantre et la stabilité. Faut-il envoyer quelques forces armées? Ont-ils besoin d'aide? Tintin! On va donc lire quelques textes, textes que je n'ai pas écrits, qui sont publiés sur le site de l'association Survie. Si vous vous ennuyez, l'association Survie, c'est une association qui lutte contre la France-Afrique, qui a un site internet regorgeant de textes passionnants sur 1000 sujets. Le premier texte que je vais vous lire parle d'écologie. Parce que oui, notre cher président est passionné d'écologie. Vous ne saviez pas ? Ah, mais il faut vous mettre à la page. Tellement passionné, on est tellement à la pointe qu'il s'en va même de par le monde distribuer la bonne parole. Il s'est donc rendu au Gabon et dans quelques pays voisins. Et il a expliqué un petit peu comment il fallait faire. Il a dit ce qui avait bien fait et ce qui n'avait pas bien fait. Et à la clé, des carottes de coopération internationale, donc de l'argent pour les pays, pour leur développement. De l'argent pour une dictature, ça fait un peu mal. Mais si c'est pour des arbres, bon, est-ce que ça vaudrait pas le coup ? Sans frémir, sur place, il a fait un magnifique discours, à la même tribune qu'Ali Bongo, dans lequel il a dit que maintenant, la France-Afrique, c'est fini. Ah ben oui, c'est fini, regardez. Maintenant, il n'y a plus de France-Afrique, c'est la France tout court. On peut venir à la tribune expliquer comment il faut faire chez les gens. Ça rappelle un certain Nicolas Sarkozy. En tout cas, le président français, il n'était pas très content qu'on puisse insinuer que l'ancien pays colonisateur ait encore une quelconque mainmise sur les anciennes colonies. Ce merveilleux sommet, donc, permettait de discuter de l'état des forêts. Et oui, puisque depuis que Bolsonaro a brûlé la moitié de l'Amazonie, le premier poumon de la planète, c'est en réalité la forêt équatoriale africaine. Ça brûle, dans tous les sens du terme. Et donc d'un coup, ça intéresse les Occidentaux. On a eu beau piller ce bois dans tous les sens, il faudrait qu'il en reste un petit peu quand même, pour nous permettre de respirer. Pas du tout pour que les gens là-bas vivent bien, pas du tout pour préserver les habitats des personnes ou leur mode de vie. Non, non, s'il vous plaît, pour qu'on ait encore un peu d'oxygène. Puisque avec nos jet skis, avec nos avions, avec notre clim et avec nos piscines, c'est pas trop sur les Occidentaux qu'il faut compter. Alors, on espère que là-bas, hein, en Afrique, vous vous serrez bien fort la ceinture. Merci. Recyclage. Par Juliette Poisson. Lors du dernier sommet de la francophonie, Emmanuel Macron se prétend le président d'une nouvelle relation avec l'Afrique. Pourtant incapable d'autocritique, il clame à qui veut bien l'entendre que le rejet de la politique française en Afrique n'est dû qu'à des manipulations extérieures. Et dans le même temps, depuis plusieurs mois, il multiplie ses rencontres avec les pires dictateurs sans même s'en cacher. Notamment avec les piliers de la France-Afrique. Il recevait Mahamat Idriss Déby à l'Élysée le 6 février dernier, 3 mois à peine après la terrible répression d'octobre 2022 qui a fait plusieurs dizaines de morts. Le chiffre réel n'est pas connu. Et alors que des centaines de militants restent emprisonnés dans la prison de haute sécurité de Torokoro, les militants tchadiens de la société civile et de partis politiques d'opposition qui manifestaient place de la République à Paris le 13 février dernier à la mémoire des victimes de la dictature tchadienne n'ont pas eu cet honneur. La priorité reste le maintien d'une bonne relation avec le Tchad, partenaire d'autant plus essentiel pour le dispositif militaire au Sahel que les soldats français ont été congédiés par le Mali et le Burkina Faso. Nous pouvons noter depuis que c'est également le cas au Niger. Macron multiplie aussi les rendez-vous avec Sassou Nguesso, le président criminel du Congo-Brazzaville depuis 25 ans, reçu en décembre dernier et qu'il accueillera début mars, et avec Ali Bongo, avec lequel il a annoncé, en marge de la COP27 en Égypte en novembre dernier, la tenue d'un événement au Gabon, tout début mars. Pour ces rencontres, c'est la préservation des forêts qui sert de prétexte. En effet, le Gabon a accueilli les 1er et 2 mars 2023 le One Forest Summit, une déclinaison des One Planet Summit lancés en 2017 par Emmanuel Macron, l'ONU et la Banque mondiale, qui rassemble de nombreux décideurs de tous horizons afin d'identifier et d'accélérer les initiatives transformationnelles et le financement de solutions en faveur du climat, de la biodiversité et des océans. Ces One Summit, déclinés sur divers thèmes, océans, énergie, forêts, sont les instruments clés de la diplomatie environnementale d'Emmanuel Macron, qui se prétend en pointe sur ces questions. Ainsi, Emmanuel Macron et Ali Bongo, dictateur ayant succédé à son père à la tête du Gabon en 2009 et qui prépare sa succession pour l'élection présidentielle prévue courant 2023, coprésideront à Libreville un sommet censé œuvrer à la préservation des forêts tropicales, accueillant politiques, organisations de société civile et de recherche et entreprises. Une hypocrisie totale. Les véritables responsables de la déforestation pourront pérorer à la tribune et n'auront de cesse de communiquer sur leur engagement pour préserver la biodiversité et le climat. Un signe qui ne trompe pas, la journaliste de Libération, Maria Malgardis, qui avait déjà dénoncé cette hypocrisie par le passé, s'est vue interdite de sommet malgré son visa. En instrumentalisant les questions environnementales, sur le dos d'acteurs de la recherche et d'organisations de la société civile sincèrement engagées, qui sont associées à cette rencontre, la France-Afrique, à l'ancienne, montre son talent à se recycler de façon permanente, sous de nouvelles couleurs, celles du greenwashing. Ce texte avait été mis en ligne le 5 mars 2023, donc juste avant le sommet qui s'est tenu au Gabon à propos des forêts. C'est un texte critique. Et il en est paru un dans la foulée, parce que Juliette Poisson, la même journaliste, est allée interviewer Bernard-Christian Rekoula, qui est militant de la société civile gabonaise. Cette interview est intéressante parce qu'elle permet de montrer, s'il fallait le rappeler, que les premières personnes qui se bougent, ce sont les acteurs locaux. C'est-à-dire que les premières personnes à se bouger pour la protection de l'environnement au Gabon, ce sont les Gabonais. Les premières personnes à s'animer et à se révolter contre le pouvoir corrompu, ce sont les Gabonais, bien sûr. Ils et elles n'ont nul besoin qu'on vienne leur faire la morale et leur dire ce qui est acceptable ou non. On lit l'interview. Le titre, c'est « Gabon, nous refusons l'instrumentalisation de la question écologique ». Bernard-Christian Rekoula, militant de la société civile gabonaise, est un des initiateurs du COPIL citoyen, impliqué dans la défense des populations, de l'environnement et la lutte contre la corruption et la dictature. Il est à l'origine d'une plainte au Gabon contre le deuxième groupe pétrolier français, Perenco. Menacé, il a dû fuir pour la France fin 2022. Il dénonce la mascarade du One Forest Summit, co-présidé par Ali Bongo et Emmanuel Macron, début mars 2023. Question. Vous êtes arrivé en France suite à des menaces au Gabon. Pourriez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à fuir ? Réponse. Je suis diplômé en management de l'information et de la communication et militant des droits de l'homme. Je suis initiateur du COPIL citoyen créé en 2021 avec d'autres membres de la société civile comme Marcona, Georges Mpaga, Marcel Libama, Geoffroy Fokula, son actuel porte-parole, Judith Justine Lekogo, pour lutter contre les injustices vécues par les citoyens. Le COPIL a lancé des actions si marquantes et a des membres tellement forts que le gouvernement tente de les démanteler de façon insidieuse et par des menaces et emprisonnements. Par exemple, contre les proches de Marcel Libama ou contre Jean-Rémy Yama, président de la plus grande fédération syndicale au Gabon, récemment emprisonné pour des raisons fallacieuses. Moi aussi, je dérange énormément parce que je capte des preuves, vidéo, audio, repères GPS quand il le faut. Je fais des documentaires, web documentaires ou documentaires pour les chaînes de télévision internationales, dont l'impact est retentissant. Je fais donc partie des personnes qu'il fallait coûte que coûte réduire au silence. Je suis arrivée en France en décembre 2022 suite à une série d'événements. Intimidation policière, commando et menaces de mort sur moi et sur ma famille, harcèlement judiciaire, appel au tribunal pour passer en jugement sur les dossiers fantômes. La goutte d'eau a été une tentative de kidnapping dont j'ai été informée dans les dernières minutes par de hautes personnalités du pays. Ayant la double nationalité gabonaise et française, je me suis réfugiée à la base militaire française. J'ai été auditionnée par les agents de la DGSE, les services de renseignement, par les hauts gradés et gendarmes français avant qu'ils ne me mettent tout bonnement à la porte malgré les menaces qui pesaient sur moi. Certainement une sur-recommandation de l'ambassade, vu ce qui s'est passé ensuite. J'ai réussi à joindre l'ambassade de France et les portes m'ont été fermées. Étant gabonais, français, au Gabon, eux considéraient que j'étais gabonais. Ils m'ont invité à aller me cacher chez un ami. J'ai dû me rendre à l'ambassade des États-Unis. Horrifiés par mon récit, certains responsables ont appelé l'ambassade de France pour leur demander des comptes, vu le travail que je faisais et les menaces qui pesaient sur moi. L'ambassade m'a donc reçue et j'ai dû leur réexpliquer ce qui se passait. Ils m'ont alors dit qu'ils ne pouvaient rien pour moi, qu'ils étaient limités par la Convention de Genève, mais que si je voulais fuir le pays avec ma famille, ils pourraient peut-être m'aider, et que si je me faisais arrêter, ils feraient tout pour que mes droits soient respectés. J'ai un peu rigolé. Un Français, Brice Lacruche, un ancien conseiller d'Ali Bongo, est sans cesse torturé dans les cachots de Libreville sans que ses droits soient respectés. Des militants m'ont organisé une planque où je suis restée pendant un mois. Des journalistes avec lesquels je travaille, dont France 24, ont mobilisé le commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Un député de la France insoumise a interpellé le ministre des Affaires étrangères en lui demandant des explications sur les autorités consulaires au Gabon. À partir de là, les autorités françaises ont contacté mon épouse pour prendre de mes nouvelles et voir comment faciliter le déplacement de ma famille vers la France. De hauts gradés gabonais ont alors fait tout pour rentrer en contact avec moi, disant que c'était un malentendu. J'ai refusé de les rencontrer. J'ai quitté le Gabon en secret via un pays frontalier d'où je suis venue en France. Je suis soutenue par des associations comme Frontline Defender, Freedom House, l'Observatoire de défense des droits de l'homme, Tournons la page au Gabon, auxquelles je suis affiliée, et le Copil Citoyen. Question. Vous êtes instigateur d'une plainte contre Perenco au Gabon. Peut-on revenir sur votre travail, sur les agissements de cette entreprise ? Réponse. La plainte a été initiée par le ROLBG, le Réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, présidé par Georges Mpaga, moi et un député indépendant de la région impactée d'Etimboué, suite au refus de Perenco de collaborer avec la société civile quant aux dégâts environnementaux que nous avons constatés dans la région d'Etimboué. Il s'agissait de rejets d'hydrocarbures dans la nature, dans les rivières, dans les lagunes, en mer, ou encore des rejets de gaz toxiques, sulfure d'hydrogène, à proximité d'habitations ou d'écoles, en pleine nature ou dans les cours d'eau, provoquant des dégazages qui occasionnent la mort d'animaux. Suite à ces constats, nous avons écrit à Perenco pour dialoguer, mais Perenco nous a snobé et a rejeté le mémorandum que nous lui avions soumis. En 2021, nous avons donc décidé de traîner Perenco en justice afin de la contraindre à rendre des comptes, non pas à l'État gabonais, mais au peuple gabonais, aux habitants des régions concernées et à la communauté internationale. La question de l'environnement dépasse les frontières du Gabon. Question. Quelle chance a la plainte d'aboutir au Gabon ? Honnêtement, elle n'a aucune chance de prospérer au Gabon parce que ce n'est pas qu'une question de pollution. Ça fait ressortir des questions de corruption qui impliquent certaines élites du pays, et notamment la famille présidentielle, qui possède officieusement des puits de pétrole gérés par Perenco. Ces puits de pétrole ont été achetés à Total, qui les avait elle-même hérités d'Elf. Nul besoin de vous refaire l'historique de toute la mafia tournant autour de cette entreprise d'État française. Les puits de pétrole sont à l'État gabonais, mais une partie des revenus est détournée pour le compte de la famille présidentielle. J'ai eu la confirmation par les travailleurs de Perenco et des hauts grades que ces pratiques ont encore lieu. Au-delà de la pollution, Perenco ne respecte pas certaines normes de travail et de production pétrolière. Elle peut le faire, car elle est en intelligence avec la famille présidentielle. La plainte n'a pas de chance d'aboutir. J'en veux pour preuve qu'elle a été rejetée au début, avant que nous puissions médiatiser et attirer la lumière sur cette plainte. Ensuite, Perenco nous a contesté le droit de la poursuivre en justice, ce qui lui a été accordé dans un premier temps, avant d'être débouté par la Cour de cassation. Il y a eu un début d'investigation, fait par un juge d'instruction très dynamique, qui n'hésitait pas à aller sur le terrain, à recueillir des preuves, à interroger longuement les membres de la société civile et la salariée de Perenco. Curieusement, quand le dossier a commencé à prendre un envol positif, ce juge a été dessaisi de l'affaire et muté dans la province d'origine d'Ali Bongo, Odimba. Désormais, depuis près d'un an maintenant, l'affaire est dans les tiroirs. Pour nous, le fait de porter plainte au Gabon est purement symbolique, parce que nous connaissons la mainmise du pouvoir sur la justice gabonaise. Depuis 2 ans, nous travaillons donc avec des cabinets d'avocats en Angleterre et en France pour véritablement ouvrir des plaintes et poursuivre en justice Perenco. Ce dernier texte est un billet d'actualité qui est sorti il y a peu de temps, il y aurait beaucoup plus à en dire. Mais je vous le lis tout de même et je vous dirai un mot ensuite sur un de ses auteurs. Billet paru le 30 août, donc. Alors que le régime d'Ali Bongo au Gabon fait face à son tour à un coup d'État dont on ignore encore l'issue, l'association Survie, spécialisée sur la France-Afrique, appelle la France à la plus stricte neutralité et en particulier à s'abstenir de tout interventionnisme militaire. Comme l'explique Thomas Borrell, porte-parole de Survie et co-directeur de l'ouvrage collectif récent « L'histoire de la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir », la France dispose d'une base permanente avec encore 350 militaires au Gabon. Et on a vu le mois dernier au Niger que l'armée française avait été à 2 doigts d'intervenir pour mettre fin au putsch. Paris ne doit pas privilégier le putsch électoral qu'a une nouvelle fois tenté le régime Bongo au putsch militaire initié par des officiers, désireux de mettre fin à 6 décennies de pouvoir dynastique. Les militaires français doivent rester dans leurs casernes et se préparer à quitter définitivement le pays. Un agenda de retrait militaire total et inconditionnel sera un premier pas vers la fin de la France-Afrique. Tôt, ce matin du 30 août, des militaires de l'armée régulière et des membres de la garde républicaine sont apparus à la télévision gabonaise en annonçant l'annulation de l'élection présidentielle dont les résultats venaient d'être proclamés et qui maintiennent Ali Bongo au pouvoir dans la continuité des 56 ans de la dynastie initiée par son père, emblématique de la France-Afrique. Les militaires ont aussi annoncé la dissolution des institutions gabonaises qui habillent la dictature en place d'Oripo démocratique. L'armée française dispose sur place d'une base maintenue depuis l'indépendance, les éléments français du Gabon, EFG. Ceux-ci jouent un rôle de soutien logistique aux interventions militaires françaises dans la région et à la formation des différentes armées régionales, en particulier la garde républicaine et l'armée gabonaise. Il y a un mois, au Niger, l'armée française avait en effet failli intervenir pour rétablir dans les fonctions le président dans les premières heures du putsch, comme l'a révélé Le Monde 3 semaines plus tard. L'association Survie appelle donc à ce que les EFG ne répondent pas à une éventuelle demande d'Ali Bongo, auquel Emmanuel Macron a rendu visite à Libreville 5 mois avant le scrutin. Alors qu'un peu partout en Afrique francophone, la présence de l'armée française est décriée, l'association Survie appelle une nouvelle fois Paris à annoncer un agenda clair et de court terme de retrait militaire complet du continent. Je vous disais que j'allais vous parler d'un des auteurs. Effectivement, il y a un livre qui vient de paraître. Il y a même eu des rencontres à Paris. Bon, l'Ardèche est un peu loin pour faire la route, et puis de toute façon, c'est passé. Mais ça avait l'air sacrément intéressant. Je vous lis le résumé des rencontres et vous allez comprendre. À Paris, on entend de toutes parts le même refrain. La France-Afrique est morte et enterrée. Pourtant, de Ouagadougou à Libreville, de Dakar à Yaoundé, de Bamako à Abidjan, la jeunesse se révolte contre ce qu'elle perçoit comme une mainmise française sur son destin. 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, la France a officiellement octroyé l'indépendance à ses anciennes colonies françaises. Une liberté en trompe-l'œil. En réalité, Paris a perpétué l'Empire français sous une autre forme. La France-Afrique. Un système où se mêlent des mécanismes officiels assumés, revendiqués, militaires, monétaires, diplomatiques, culturels, et des logiques de l'ombre, officieuses, souvent criminelles. Un système érigé contre les intérêts des peuples, avec l'assentiment d'une partie des élites africaines et qui profite toujours aux autocrates africains, amis de la France. Un système que tous les présidents français ont laissé prospérer en dépit des promesses de rupture. Exceptionnel par son ampleur, inédit par son contenu, cet ouvrage retrace cette histoire méconnue. Depuis les origines coloniales de la France-Afrique jusqu'à ses évolutions les plus récentes, rédigé par des spécialistes reconnus, chercheurs, journalistes ou militants associatifs. Les contributions rassemblées dans ce livre montrent que le système france-africain, loin de se déliter, ne cesse de s'adapter pour perdurer. Le titre de ce livre est donc « L'histoire de la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir ». C'est paru cette année et je vous souhaite de le lire. Et voilà, après ces textes, on ne peut plus clair. On ne peut pas présager de la suite des événements. Je ne suis pas Madame Irma et je ne peux pas vous dire si les putschistes seront de francs camarades. Mais honnêtement, est-ce que ce sera pire que les bongos ? Difficile de faire pire. On verra. Sur ce, on clôture cette émission spéciale Gabon en attente de nouvelles depuis le continent. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique politique et décoloniale, Billets d'Afrique. Portez-vous bien et restez à l'écoute de Fréquence 7.
Il est temps de faire un petit flashback histoire de se rappeler du bon vieux temps. Bâtard qui passe inexorablement. J'ai grandi à la mer, bercé par le chant des tisserands, dans un pays dirigé par Bongo et Mitterrand, avec des grossistes libanais en guise de commerce en clinique des 5 palmiers. Attention, chaud devant, quartier Louis, derrière la prison, je fais mes premiers pas, qui est enfermé dans les geôles mystères, peut-être des potes à ma mère, journalistes et bûcherons qui plus tard accepteront des postes, wow, placés dans les ministères. Pas de guerre au Gabon, t'as vu, on sait faire taire les opposants en cooptant, et s'il faut l'appui des militaires français. Sixième Bima, escadron prêt à protéger le tonton et la tata Sylvia, mais pour l'instant je m'en bats, je gambade, saute sur les billes de bois, échoué sur le sable du bord de mer. Avec mes potes on balance des badames, et le soir ma mère achète des bédoums et des beignets bananes. Quand tu entends Dombolo, vas-y bouge ton pote, cherche pas à te cacher, y'a pas de scène et donc pas de loge, ou bien les pas de danse qui vont rendre fou le colon qui s'est perdu loin de chez lui, du Gabon au Cambodge. Moi je bouge mon botch dans une danse folle autour des flammes en Tribouga et Witty, dans le temple, les adultes entrent en transe, les braises crépitent et les notes de la harpe m'aspirent dans cette ambiance syncrétique. Le Witty a intégré la Vierge Marie et les mixtures contiennent de la bière dans les cérémonies. Culture des blancs, avalée, digérée jusqu'au drapeau sur le fronton de l'école. Vert, jaune, bleu, blanc, rouge, tout un symbole.
Le Witty a intégré la Vierge Marie et les mixtures contiennent de la bière dans les cérémonies. Culture des blancs, avalée, digérée jusqu'au drapeau sur le fronton de l'école. Vert, jaune, bleu, blanc, rouge, tout un symbole.
France, Gabon, une mi-temps dans chaque camp. Troisième mi-temps avec les du rhum et du vin blanc, versant un peu sur la terre pour les anciens et les absents. La bande passante, t'inquiète, on rap sans France, Gabon, une mi-temps dans chaque camp. Troisième mi-temps avec les srabs, du rhum et du vin blanc, versant un peu sur la terre pour les anciens et les absents. La bande passante, hein. L'été était le temps béni des colonies de vacances, j'allais passer en France, conscient de la chance de pouvoir voyager et de mesurer la différence entre ma vie et ce que les chaînes françaises passaient en plan séquence. À Paris, ma mère m'habillait pour toute l'année, j'étais fier de mes nouvelles pompes, mais de retour au bled, j'en avais étrangement honte face aux gamins en gros troués qui ne perçoivent pas l'argent du pétrole gabonais. La morbonnée, juste avec un gobelet, ça tapait des foot de ouf devant gros bouquet. À la télé, comme chaque gosse, les bleus m'ont affolé le 12 juillet du haut de mon écoumé. Désormais, je suis un grand garçon et en vrai, j'ai pas de bastion, franchement, rien à battre des nations. Je sais le mal qu'on fait au nom des fanions, mais je fanfaronne et en place une pour France, Fanon, France, Gabon. Une mi-temps dans chaque camp, troisième mi-temps avec les srabs, du rhum et du vin blanc, versant un peu sur la terre pour les anciens et les absents. La bande passante, t'inquiète, on rap sans France, Gabon. Une mi-temps dans chaque camp, troisième mi-temps avec les srabs, du rhum et du vin blanc, versant un peu sur la terre pour les anciens et les absents. La bande passante, t'inquiète, on rap sans France, Gabon. Une mi-temps dans chaque camp, troisième mi-temps avec les srabs, du rhum et du vin blanc, versant un peu sur la terre pour les anciens et les absents. La bande passante, t'inquiète, on rap sans France, Gabon. Une mi-temps dans chaque camp, troisième mi-temps avec les srabs, du rhum et du vin blanc, versant un peu sur la terre pour les anciens et les absents. La bande passante, t'inquiète, on rap.
Bangaba, 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 Bangaba,